Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle. Le 10 septembre 2024 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Rebonjour à tous et merci d'être avec nous. 11h passées de 10 minutes. Nous sommes ravis d'être avec vous. 11e édition du speed dating de l'immobilier. C'est la place où il faut être. Après cette rentrée en septembre que nous avons animée à Longchamp avec le RL, le MEDEF à la rencontre des entreprises de France, on est ici dans le grand rendez-vous organisé par Arkéa Banque, 11e déjà, 11e édition, avec beaucoup d'actualités, et on fait le tour des acteurs de la fabrique de la ville. Et je suis ravi d'accueillir, je me semble d'ailleurs que c'est la première fois qu'il vient sur notre plateau, c'est Simon Goudiard.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous, Simon. Vous êtes le directeur général de office.
Office, foncier. Alors logiquement organisme, mais organisme. On a fait le choix d'être un office foncier solidaire des Yvelines. Voilà, office pour la dimension publique de notre outil.
Alors j'aime beaucoup le parti pris que vous avez pris justement de dire office. Oui. Justement là-dessus. Première question, un peu plus générale, qu'on vous connaisse mieux. Mm-hmm. L'émission de l'OFS, c'est quoi ? Parce que vous êtes dans votre troisième année d'existence.
Alors ça fait 3 ans qu'on existe. Je dirais que le fondement d'un office foncier solidaire comme le nôtre, c'est de développer du logement sous le dispositif du bail réel solidaire, qui est un dispositif de démembrement du foncier et du bâti, ou de dissociation économique entre la valeur du foncier et la valeur du bâti, ce qui permet de vendre des logements 30 à 40% moins cher que sur le marché privé, moyennant le paiement d'une redevance foncière, justement pour la partie de foncier qui va être portée par l'OFS, qui est très variable d'une opération à l'autre. Dans les Yvelines, et vous voyez pourquoi je parlais d'office tout à l'heure, on a fait le choix de ne pas avoir justement de redevance variable, c'est-à-dire dont la valeur va évoluer en fonction du prix du terrain, mais d'avoir une redevance fixe à 1 euro du mètre carré habitable par mois. Donc évidemment, ça nécessite un apport en argent public assez conséquent, puisqu'on va investir environ 50% de fonds propres dans nos opérations, quand dans le modèle classique, on va plutôt mettre 5 à 10% de fonds propres, et c'est la redevance qui va permettre d'équilibrer le modèle, et donc c'est pour ça que plus le terrain est cher, plus la redevance sera élevée, et inversement. Nous, on a vraiment fait le choix d'avoir quelque chose de très lisible, parce qu'on est dans un dispositif de politique publique, et puis surtout dans un montage et dans un modèle qui permet d'avoir un reste à charge foncier le plus réduit possible pour l'acquéreur, et que finalement l'essentiel de son effort mensuel pour son logement permette de constituer de l'épargne. Voilà.
Un office foncier solidaire, c'est avant tout un outil, on est d'accord ?
Oui.
Un outil qui permet d'endiguer les problématiques de surenchère sur les terrains, d'accès à du logement, toute classe d'actifs confondus. Vous avez finalement quelque part, si je vous comprends bien, quelque part un rôle de régulateur dans une certaine mesure.
Alors non, justement, j'aime pas trop qu'on parte du principe que les OFS ont un rôle de régulateur, parce qu'en réalité, notre terrain de jeu, c'est le marché. Ça reste le marché.
Ça reste le marché, donc.
Évidemment, on va discuter le bout de gras avec les propriétaires, avec les opérateurs immobiliers qui travaillent avec nous, pour essayer d'avoir des prix fonciers qui ne sont pas forcément ceux du marché. Mais de là à imaginer que les OFS pourraient jouer un rôle de régulation, on en est quand même très très loin. Aujourd'hui, c'est simplement un outil dans le panel des réponses qu'on peut apporter aux besoins en logement. Donc c'est plutôt un outil de réaction à une situation qui est assez dramatique. Les tables rondes de ce matin en ont bien témoigné. Hein. Plusieurs millions de ménages qui aujourd'hui ont du mal à se loger, certains qui ne sont même pas du tout logés. Donc on est plutôt là pour réagir à une situation et à un contexte assez dramatique, plus que pour apporter une régulation du foncier.
Vous avez raison.
Cette régulation-là, ce sera à la main des pouvoirs publics, de la responsabilité des acteurs, arrêter justement les surenchères, des propriétaires,
etc. Vous êtes un véritable outil, non pas effectivement pour être un peu le régulateur, mais pour aider finalement à maîtriser un certain nombre de projets. Vous êtes sur toutes les classes d'actifs, hein ?
Uniquement résidentiel.
Que du logement.
Que du logement.
Et votre terrain de jeu, c'est l'ensemble des Yvelines ?
C'est l'ensemble des Yvelines. Alors après,
le BRS... C'est le plus grand département d'Île-de-France.
C'est un des plus grands et c'est un des plus contrastés. Hein. On a Versailles d'un côté, Mantes-la-Jolie de l'autre, hein, pour citer certains extrêmes.
C'est clair.
Donc on va intervenir surtout là où les marchés sont les plus tendus, pour que le BRS ait vraiment du sens et surtout qu'il reste attractif pour nos acquéreurs. Parce que si je vends du BRS dans lequel je suis propriétaire de mes murs, je paye une redevance, mais qu'au final tout ça, ça me coûte en mensualité la même chose qu'un logement classique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est clair.
Donc en fait, on va se concentrer dans les marchés les plus tendus, c'est-à-dire à partir de 4 500 ou 5 000 euros du mètre carré, et là où les bassins d'emploi sont sont les plus dynamiques. L'enjeu pour nous, c'est de réussir à maintenir des ménages sur notre territoire, notamment des ménages familiaux, qui sont inscrits dans une trajectoire professionnelle relativement stable. Notre cible, ce n'est pas les jeunes actifs. Les jeunes actifs, ils sont très mobiles, ils vont changer de travail tous les 2, 3, 4, 5 ans. L'essentiel pour eux, c'est de leur proposer une offre locative qui va correspondre à leurs besoins, et en particulier en début de parcours professionnel. Nous, on va surtout essayer de maintenir des familles qui ont tendance à s'éloigner considérablement, parfois même à quitter le département ou l'Île-de-France, avec toutes les externalités négatives qu'on connaît. Des temps de trajet en voiture qui sont de plus en plus longs, c'est de l'entretien pour le territoire, et puis finalement, c'est une perte d'attractivité pour les entreprises. Voilà.
Parce que, en fait, vous essayez de rapprocher le plus possible l'emploi du logement.
Ça fait partie de nos critères d'engagement.
Donc c'est une équation. C'est quoi pour vous la bonne tolérance ? C'est la région la région du 20 minutes, comme on dirait la ville du quart d'heure. C'est quoi la bonne stratégie ? Est-ce que vous avez déjà une vision dans
le La bonne stratégie, c'est de partir de l'habitant et de l'usager final. C'est savoir comment est constitué son portefeuille et son budget. Deux chiffres importants. Aujourd'hui, les dépenses de consommation d'un ménage moyen en France, c'est 20% pour le logement, 15% pour les transports. Ça veut dire qu'on a un tiers de ces dépenses, plus d'un tiers de ces dépenses, qui sont liées uniquement au logement et au transport, notamment pour les mobilités domicile-travail. L'objectif, c'est de réussir à diminuer d'un côté et de l'autre. Donc forcément, en proposant une offre de logement la plus abordable possible, ce qui est notre mission, en vendant des logements 30 à 40% moins chers que sur le marché, et à proximité immédiate des lieux d'emploi, pour que la voiture ne soit pas le dénominateur commun de la mobilité professionnelle, mais qu'on puisse y aller à pied, en vélo, en transport en commun. Donc la ville du quart d'heure, je ne sais pas si ce n'est pas une théorie un peu galvaudée aujourd'hui, ça veut un peu tout et rien dire. Ce qui compte, c'est que ça reste acceptable dans un équilibre de vie, pas être trop éloigné. Une demi-heure, ça me semble être du domaine de l'admissible, et puis évidemment avec un logement qui ne coûte pas trop cher. Et ce logement qui ne coûte pas trop cher, c'est d'autant plus important à proximité des bassins d'emploi que, de manière générale, les territoires où l'activité économique est la plus dynamique sont les territoires où les marchés immobiliers sont les plus tendus, puisqu'on est dans des logiques de compétition, de rapprochement de son lieu de vie à celui de son travail. Et donc forcément, ça va exclure un certain nombre de ménages, et notamment des actifs de classe moyenne, des employés, des cadres moyens, qui en fait vont avoir de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois, et qui vont en fait quitter le territoire, notamment yvelinois, mais aussi francilien au sens large. Et donc c'est un enjeu pour nous de pouvoir maintenir ces forces vives.
Alors, les offices fonciers solidaires, organismes fonciers solidaires, se sont nés aussi par justement la mise en place de cet outil formidable qu'on appelle le BRS. Vous l'avez utilisé tout à l'heure. Je vous le dis, les amis, vous avez reconnu bien évidemment, mais c'est le bail réel solidaire. Juste quelques mots sur le bail réel solidaire. On dissocie le bâti du foncier. Donc on a une décote finalement qui permet d'accéder plus facilement à la propriété sous le biais d'une certaine forme d'emphytéose. On peut dire les choses comme ça ?
On peut rapprocher ça d'une emphytéose. En tout cas, il y a une inspiration.
Mais c'est pas une rupture du droit de propriété ?
Non, au contraire. C'est-à-dire que les acquéreurs en bail réel solidaire sont titulaires de ce qu'on appelle un droit réel. Et un droit réel, c'est être propriétaire comme n'importe quel autre propriétaire.
C'est bien le respect du droit de propriété.
C'est le respect du droit de propriété. Attention, dans les limites et les conditions du bail réel solidaire, qui, je le rappelle, est un contrat. Et dans ce contrat, les limites de cette occupation, c'est que, un, je dois l'occuper à titre de résidence principale, obligation fondamentale du dispositif. Deux, je dois m'acquitter de la fameuse redevance foncière que j'évoquais tout à l'heure pour que l'OFS puisse aussi monter son plan de financement pour acheter le terrain et éviter de le refacturer à l'acquéreur.
En fait, on loue le terrain.
On loue le terrain, ouais, voilà. Et trois, le jour de la revente, je ne peux pas le revendre à n'importe quel prix, c'est-à-dire que ma plus-value va être encadrée. Elle est généralement indicée en fait, sur par exemple un IRL ou un ICC. Et surtout, je vais devoir le revendre à un ménage qui est lui-même sous des conditions de ressources, comme moi le jour de mon acquisition. Voilà, donc il y a un certain nombre de contreparties, mais très honnêtement, quand on met toutes ces contreparties bout à bout et qu'on voit les avantages comparatifs qu'on a en face...
Je l'achète moins cher, moins 40% parfois,
voilà.
Je le revends 5 ans après, je ne perds pas d'argent.
Je ne perds pas d'argent, moi c'est ce que j'appelle l'épargne à vivre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un dispositif où à peu près pour la valeur d'un loyer, je vais pouvoir constituer un capital... ce que je n'aurais pas pu faire dans l'accession privée puisque ce serait au-dessus de mes moyens. Et donc au lieu de payer un loyer à fond perdu tous les mois, j'épargne. Et quand je pars, peut-être que j'ai pas de plus-value, mais au moins j'ai constitué ce fonds de capital qui va me permettre soit de racheter un BRS, soit de basculer dans un schéma plus classique d'acquisition.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, et j'aime beaucoup votre idée épargne de vie, parce que vous répondez exactement au principe de l'accession à la propriété
pour la résidence principale.
En quoi la résidence principale sera un outil de spéculation ? C'est pas le cas, c'est pas le but de la résidence principale. En fait, vous venez de rétablir par l'équilibre économique l'objectif de la résidence principale. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que quand on paye 2000 euros de loyer par mois, eh ben c'est de l'épargne aujourd'hui qui est à fond perdu, puisque c'est un loyer. Lorsqu'on l'en fait, cette épargne-là, dans le cadre du BRS, on récupérera cet argent à minima.
On a été mal éduqués sur l'acquisition titre de résidence principale. On a tous pensé, parce qu'évidemment, on a connu des années assez folles.
Vous achetiez 100, vous revendiez 10 ans après 200.
Voilà.
Et on a perdu de vue que le logement est l'outil essentiel de l'intégration dans la vie.
Voilà. C'est un coût contraint. Et on essaye de faire en sorte que ce coût contraint ne soit pas complètement perdu. On aura une charge d'intérêt à la banque.
Est-ce que ça explique le succès que vous avez ? Parce que c'est un vrai succès.
Vraisemblablement. Ce qui explique le succès, si on dit les choses de manière assez triviale, c'est que c'est le prix.
Le prix.
Mais derrière ce prix, avec toutes les contreparties qu'on a, effectivement, à partir du moment où on peut récupérer finalement une somme conséquente de ce qu'on aura mis tous les mois dans notre mensualité, hors intérêt, hors charge de copro, etc., les promoteurs jouent le jeu. Ils ont bien compris
que... Vous êtes devenus... un outil formidable pour l'élu.
Pour l'élu, parce qu'évidemment, ça lui permet de maintenir ses familles plutôt qu'elles s'en aillent, donc de maintenir ses équipements publics et en particulier ses écoles. En plus de ça, le dispositif de BRS, sous certaines conditions, peut être comptabilisé comme du logement social. Donc c'est vrai que quand on est légèrement en retard par rapport à la SRU, les 25% de logements sociaux dans son parc immobilier, eh ben c'est un dispositif qui va avoir un effet levier. Ce n'est pas un outil de substitution. Attention, ce n'est pas destiné à remplacer le logement social, mais à venir compléter l'effort qui est produit par la collectivité rattraper son retard.
Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça fonctionne plutôt bien. L'idée, elle est originale, elle est innovante. Certains ont écrit que c'était la mort du droit de propriété. Pas du tout.
Pas du tout.
Ça complète absolument l'ordre. Vous l'avez répondu, d'ailleurs. Vous y avez répondu parce que moi, je vois dans vos opérations, mais aussi dans d'autres EFS, la facilité pour des familles de demeurer sur le territoire, exactement, sans s'éloigner des bassins d'emploi. Rien qu'à ce titre-là, vous avez parfaitement rempli cette mission.
C'est des stratégies pour les ménages. C'est-à-dire, est-ce que je souhaite rester dans la commune où j'habite, où j'ai mis mes enfants à l'école, où je travaille pour un certain montant, ou est-ce que pour ce même montant, je préfère considérablement m'éloigner, mais en étant plein propriétaire en dehors du BRS et en payant des transports et en se désociabilisant d'une certaine manière. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est un choix qui revient aux habitants. Et le dernier point par rapport aux opérateurs, juste une précision, en tant qu'OFS, en tout cas pour ce qui nous concerne dans les Yvelines, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage. On intervient comme investisseur en phase de montage. On délègue la maîtrise d'ouvrage à un opérateur immobilier qui va construire, commercialiser pour notre compte. Et en fin de process, on redevient exploitant de ce qui a été livré. Donc on a vraiment tout intérêt à travailler avec les opérateurs pour massifier cette proposition, même si encore une fois, elle ne résoudra pas tous les problèmes de la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir ces éléments-là en tête. Et effectivement, les opérateurs y trouvent leur compte. Parce que, pour vous dire les choses simplement, nos clients d'aujourd'hui sont les clients des promoteurs d'hier, quand on avait des taux proches de 1% et des coûts de construction qui étaient un peu plus réduits que ce qu'on a aujourd'hui.
Les élus vous suivent du territoire.
Bien entendu.
Forcément, c'est une très très bonne réponse. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller voir ce que vous faites ?
Il est en cours de création. Alors, à partir du printemps prochain, vous pourrez y accéder. Mais on a déjà des médias disponibles un peu partout sur Internet.
Avec grand, grand plaisir. On suivra bien sûr avec beaucoup, beaucoup de vigilance les opérations. Je vais vous retrouver d'ailleurs aussi à H-Expo, au congrès de l'Union sociale pour l'habitat à Montpellier. Changez rien, Simon. Voilà. Je trouve que vous êtes exactement dans l'ère du temps et dans l'usage pour loger les Français, et je dis bien tous les Français. Merci beaucoup.
Simon, merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office foncier solidaire qui est sur le papier organisme français solidaire, mais j'aime beaucoup l'idée pour le département des Yvelines. Merci à vous.
Merci à vous.
On vous souhaite un excellent speed dating à suivre. Deux interviews, justement. On va recevoir le président du directoire d'Arkéa Banque et institutionnel Bertrand Blampin, suivi du président, du grand président d'Arkéa Banque et institutionnel également, Julien Carmona, qui sera avec nous dès 12h. À tout de suite.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprise et Institutionnel, le 10 septembre 2024 sur Radio Immo et Radio Territoria.